France Culture.
Le journal est signé Mathieu Laurent. Bonsoir Mathieu.
Bonsoir Quentin et bonsoir à tous. Au sommaire de cette édition, on les savait en première ligne, les riverains des vignes traitées. Une étude d'une ampleur inédite entre dans les détails. Niveau de contamination parfois supérieur de 45% dans les urines. Explication de Véronique Robert-Hotte. Des syndicats qui sortent de Matignon en mode « on verra bien après le 18 septembre ». Le portrait de trois revenantes de Syrie devant la cour d'assises spéciale de Paris pour association de malfaiteurs terroristes. Également dans ce journal, la visite en Israël du secrétaire d'État américain venu apporter le soutien indéfectible des États-Unis au gouvernement de Benjamin Netanyahu. TikTok qui devrait passer sous pavillon américain après un accord trouvé entre la Chine et les États-Unis. Enfin, jour férié, jour des personnes âgées aujourd'hui au Japon, pays en proie à la dénatalité, dont les anciens travaillent en nombre après l'âge de la retraite. Nul doute que les riverains des vignobles sont plus exposés aux pesticides que le reste de la population. Nous sommes en mesure cette fois d'être plus précis grâce à une grande étude lancée par Santé publique France et l'ANSES, l'Agence nationale de sécurité sanitaire, dont les résultats viennent d'être rendus publics. Pestirive, c'est son nom, a choisi la viticulture tout simplement car elle fait partie des productions agricoles soumises à de très hautes doses de produits phytosanitaires. Bonsoir Véronique Robert-Hotte.
Bonsoir.
Véronique, vous nous livrerez dans un instant les principaux résultats de ces analyses, mais d'abord comment et auprès de qui cette étude a-t-elle été menée?
Alors cette étude qui a coûté 11 millions d'euros a été menée sur 10 mois entre octobre 2021 et août 2022 dans au total 265 zones à la fois des zones viticoles et aussi des zones éloignées de toute culture réparties dans 6 régions viticoles françaises sur des adultes, presque 2000 et des enfants aussi, 742 en tout âgés de 3 à 17 ans. Ces volontaires de 3 à 79 ans résidaient soit donc dans les zones viticoles, c'est-à-dire moins de 500 mètres des vignes et à plus d'un kilomètre d'autres cultures agricoles, pour ne pas biaiser l'étude, soit en zone éloignée, c'est-à-dire située à plus de 1 kilomètre de toute culture et à plus de 5 kilomètres de vignes. Toutes ces personnes ont fait l'objet d'un suivi biologique particulier avec des prélèvements d'urine et de cheveux pendant la période d'épandage des produits phytosanitaires, des pesticides et hors aussi période de traitement. Ce n'est pas tout, aussi des capteurs d'air ont été déposés à l'intérieur et à l'extérieur des habitations, des prélèvements de poussière ont été faits, des analyses aussi parfois des légumes du potager. Au total, ce sont 56 substances qui ont été mesurées.
Et Véronique, sans surprise, on apprend que les riverains sont drôlement impactés.
Oui, pour les urines, les poussières et les ambiants, les niveaux de contamination en zone viticole sont plus élevés qu'en zone éloignée de toute culture. En zone viticole, ont été retrouvés des niveaux de contamination parfois supérieurs de 45% dans les urines, plus de 1000% dans les poussières et 12 fois plus grand dans les ambiants comparé aux zones éloignées de toute culture. Et cette exposition en zone viticole augmente en pleine période, bien sûr, de traitement de mars en août. Les niveaux de contamination peuvent même grimper jusqu'à 60% dans les urines pour certains pesticides. L'étude Pestirive en conclut que les pratiques agricoles sont les principaux facteurs d'exposition aux pesticides, que l'exposition augmente lorsque la distance entre le logement et la vigne diminue et que la quantité de pesticides utilisés pour le traitement des vignes augmente. Ce que recommande donc l'étude, c'est de limiter l'utilisation des produits phytosanitaires au strict nécessaire. Pestirive regrette aussi de ne pas avoir pu accéder à des données réelles d'utilisation des pesticides, données conformes aux pratiques, ça n'a pas été possible. Enfin, quel risque pour la santé? C'est la question que les riverains se posent. L'étude qui n'avait pas vocation d'évaluation sanitaire n'en dit rien du tout.
Merci à vous, Véronique Robert-Hotte. Reçue depuis vendredi et jusqu'à demain, les syndicats défilent dans le bureau du Premier ministre qui aura pris soin de les écouter avant de prendre le temps de consulter les partis politiques. Le calendrier social est tel qu'il fallait leur donner la priorité. Tel est le calendrier que les syndicats ne vont pas désamorcer leur mot d'ordre, préoccupation partagée par l'intersyndicale Soudé. Bonsoir, Wafia Kenich.
Bonsoir, Mathieu.
Soudé, après les entrevues de Matignon, en vue d'un 18 septembre massif.
Oui, dans leur ligne de mire, c'est le 18 septembre, avec un appel massif des organisations syndicales à faire grève. Au-delà de ce rendez-vous, les syndicats espèrent bien peser dans la balance au moment où se décide le budget 2026. Ils profitent de ce flou politique et de l'absence de majorité du Premier ministre pour instaurer un rapport de force en leur faveur, tout particulièrement sur une réforme qui ne passe pas, celle des retraites. Sophie Binet est d'ailleurs revenue sur ce dossier il y a quelques heures en sortant du bureau de Sébastien Lecornu.
J'ai dit au Premier ministre que s'il ne voulait pas rejoindre le cimetière des premiers ministres qui déborde déjà, il fallait qu'il affiche et qu'il prenne des actes de rupture forts et immédiats. Et la première rupture, c'est l'abrogation de la réforme des retraites, cette blessure démocratique et sociale qui ne passe pas et qui est à l'origine de la situation d'instabilité politique actuelle.
Demande d'abrogation de la réforme pour la CGT. Du côté de la CFDT, reçue vendredi par le Premier ministre, Marie-Lise Léon a tout bonnement refuser l'idée même d'une reprise du conclave sur les retraites avant son rendez-vous à Matignon. La secrétaire générale de la CFDT est désormais favorable à une suspension de la réforme jusqu'à l'élection présidentielle de 2027. En position de force, le premier syndicat de France se montre sûr de lui quant à la mobilisation du 18 septembre. Une semaine après le mouvement Bloquons tout, les syndicats souhaitent donc faire la preuve dans la rue qu'ils sont un acteur incontournable de la vie sociale et politique du pays.
Merci à vous, Wafia Kenich. Les dockers du port de Bayonne ont bloqué l'entrée de la scierie Celsa de Tarnos dans les Pyrénées-Atlantiques. Les dockers en grève depuis la mi-juillet pour réclamer une prime pour leur travail sur les navires reprochent à la scierie de Tarnos de casser leur mouvement de grève en remplaçant le trafic maritime par des camions. La Fondation pour le logement, l'ex-Fondation Abbé Pierre et la CSF, la plus importante association de locataires en France, alerte sur la flambée des coûts de l'énergie pour les locataires. Elles ont mené une vaste étude à l'échelle de la métropole de Lyon auprès de 6000 logements et de 11 bailleurs sociaux. Étude qui révèle que les factures d'énergie ont bondi de 72% en moyenne entre 2019 et 2023, avec pour conséquence des régularisations de charges difficilement absorbables par les ménages. C'est un reportage à Lyon de Mathilde Imberti.
Par ricochet, les bailleurs sociaux constatent de plus en plus d'impayés. Dans la métropole de Lyon, plus d'un locataire sur cinq est endetté. C'est 3 points de plus en 3 ans. Et c'est le contre-coup de la guerre en Ukraine, confirme clairement Céline Reynaud, qui préside le syndicat des bailleurs sociaux.
On a dû acheter de l'énergie chère. Les achats n'étaient pas anticipés et anticipables. C'est la guerre en Ukraine qui a été un événement déclencheur de cette flambée des coûts de l'énergie.
Ainsi, Nadia, aide-soignante, et son mari, qui travaille dans les transports, se sont retrouvés en grande difficulté. Ils occupent un T5 avec leurs 4 enfants.
Ça a posé des difficultés de paiement de loyer. Je payais 700 euros à peu près de loyer en 2022. Donc je suis passée de 700 à un peu plus de 1000 euros.
La mauvaise surprise arrive en décalé. Au fil de la régularisation des charges, explique Tennessee Garcia de la CSF du Rhône, Confédération syndicale des familles.
Des régularisations de charges qui se sont étalées entre 300 et 1600 euros, parfois équivalent à un 13e, un 14e, un 15e mois de loyer. Donc l'explosion des charges, 72%. Sur les charges d'énergie sur les 5 dernières années, eh bien, elle rend le coût du logement, loyer plus charge, intenable pour les locataires.
Alors que préconisent la CSF et la Fondation pour le logement, remettre en place un tarif social de l'énergie pour que les bailleurs l'achètent moins cher et puis réhabiliter à grande échelle pour éviter les passoires thermiques.
Mathilde Imberti à Lyon, devant la cour d'assises spéciale. Comparaissent depuis ce matin Christine Alain, 67 ans, Jennifer Klein, 34 ans, nièce des frères Klein, les propagandistes de l'organisation État islamique qui avait revendiqué les attentats du 13 novembre, et Mayalène Duhart, 42 ans, toute accusée d'avoir rejoint l'EI en Syrie entre 2014 et 2017. Toutes trois sont poursuivies pour association de malfaiteurs terroristes pour être parties en Syrie avec leurs enfants et leurs compagnons, qui comptaient rejoindre les rangs du groupe État islamique. Chacune d'entre elles encourt une peine de 30 ans de réclusion criminelle. Compte rendu d'audience, Florence Turme.
Je ne suis pas là pour nier, lance d'emblée Jennifer Klein, la seule à s'exprimer spontanément à l'ouverture de l'audience. Voix chargée d'émotions, mes propos assumés, j'ai adhéré à ce groupe terroriste et tueur, j'ai emmené mes enfants alors que j'aurais dû les protéger, je suis coupable, je regrette tellement. Les regrets d'une jeune femme, au visage encore juvénile, longue queue de cheval, jean et chemise blanche, elle n'a que 34 ans et 5 enfants, tous placés depuis leur retour de Syrie en 2019. Elle-même a baigné toute jeune dans un clan familiale, réunionnée et catholique, tout entier converti à un islam radical. Pour Jennifer Klein, ce sera le voile à 10 ans, un mariage à 15, la naissance d'une première petite fille à 16. L'Égypte, puis la Syrie avec son mari, à la veille de la proclamation du califat, portée alors par un idéal, elle considérait que c'était son rêve, qu'elle se sentait chez elle, explique l'enquêtrice de personnalité. Sa belle-sœur, Mayalène Duhart, 43 ans, qui comparait libre à l'audience, elle a cru au prince charmant lorsqu'elle a rencontré rencontré Thomas Collange au Pays Basque. Très beau, intelligent, on passait notre temps à refaire le monde. Études de psycho pour elle, de philo pour lui, pas encore converti. Elle s'oppose d'abord avant de le suivre. Une conversion par amour, mais marquée surtout par l'influence de ma belle-mère, affirme la jeune femme, cheveux courts et mèches blondes, tailleur pantalon, aujourd'hui employée de boulangerie. Elle parle de renoncement et de soumission, à demi-mot du devoir conjugal. Elle a eu 5 enfants, sa fille aînée est dans la salle, entièrement voilée. Le 5e est né et mort en Syrie, faute de soins.
Fin de ce procès programmé au 26 septembre prochain. Les premiers migrants renvoyés du Royaume-Uni vers la France dans le cadre de l'accord franco-britannique arrivent cette semaine. L'accord migratoire, rappelons-le, est fondé sur le principe du 1 pour 1. Il prévoit dans l'autre sens que pour chaque personne renvoyée, une personne installée en France pourra légalement rejoindre l'Angleterre. Question, Sandrine Etterandeg, que savons-nous sur les premières personnes qui doivent arriver dans les prochains jours en France ?
Pour le moment, seul un petit groupe de personnes atterrira à Roissy en provenance du Royaume-Uni, selon le ministère de l'Intérieur, qui ne précise pas le nombre exact de migrants concernés ni leur nationalité. Ils iront d'abord dans un centre d'hébergement en région parisienne, le temps que la situation administrative de chacun soit examinée. La première démarche des autorités françaises sera de leur proposer une aide au retour volontaire dans leur pays d'origine. Elle comprend la prise en charge des frais de transport et une enveloppe de 2 500 € par adulte et par enfant. L'administration déterminera aussi si une demande d'asile a déjà été déposée en France et si elle peut être renouvelée. Ceux qui n'accepteront pas l'aide de retour et ne seront pas éligibles à l'asile feront l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Pour chaque migrant renvoyé en France, Londres s'est engagé à accepter une personne se trouvant dans l'Hexagone. Les premiers migrants partiront samedi pour l'Angleterre, des candidats choisis par les autorités anglaises après s'être inscrits sur une plateforme en ligne qui se verront délivrer un droit au séjour au Royaume-Uni.
Il est 18h12, vous écoutez le journal de France Culture. Vers le règlement d'un lourd différend entre la Chine et les États-Unis qui les oppose depuis des mois, le sort a réservé au réseau social TikTok. Washington demandait à ce que TikTok soit vendu d'ici le 17 septembre à un propriétaire non chinois sous peine d'être interdit aux États-Unis. Franck Madvon, Donald Trump et Xi Jinping devraient mettre la dernière main à ce texte vendredi prochain.
L'ultimatum devait à nouveau expirer après-demain. Il a plusieurs fois été repoussé par Washington, qui mettait la pression sur la Chine pour que la maison mère ByteDance vende les activités de TikTok aux États-Unis. D'après le secrétaire au Trésor Scott Bessent, présent à Madrid pour les discussions avec les Chinois, la plateforme aura bien un propriétaire américain. L'accord doit être confirmé vendredi lors d'un échange entre Donald Trump et Xi Jinping. Le compromis permettra à TikTok de fonctionner aux États-Unis, mais on n'en connaît pas encore les détails. On ne sait pas par exemple si ByteDance a accepté de céder le puissant algorithme qui régit la plateforme. En tout cas, même si Trump assure que les discussions avec la Chine se sont très bien déroulées, les tensions persistent. Pékin a accusé aujourd'hui Nvidia, le géant américain des puces, d'avoir violé ses lois anti-monopole. Un moyen pour Xi Jinping de montrer que s'il lâche un peu de lest d'un côté, il reste ferme de l'autre. Mais le président chinois a besoin de faire des gestes. Il espère notamment une visite d'État de Trump dans les semaines à venir.
Franck Madvon, Washington. L'armée israélienne a détruit aujourd'hui une vingtaine de bâtiments dans la ville de Gaza, au moins 16 morts dans ces bombardements. Une nouvelle série de frappes aériennes qui a obligé des milliers de personnes à fuir les campements de tentes installés dans les ruines de plusieurs quartiers de la ville. Les Nations Unies dénoncent un déplacement de population forcée, ce qui constitue un crime de guerre. Sur le front diplomatique, soutien indéfectible du secrétaire d'État américain, au terme d'un entretien avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, avec notamment un message pour la France et tous les pays qui veulent reconnaître la semaine prochaine à New York un État palestinien. Thibault Lefèvre est à Jérusalem.
Il y avait jusqu'à tout à l'heure de la friture sur la ligne entre les États-Unis et Israël, et notamment depuis la première frappe de l'État hébreu la semaine dernière sur le territoire du Qatar, pourtant allié de l'Amérique. Cette conférence de presse a permis de remettre les points sur les i.
L'alliance avec les États-Unis n'a jamais été aussi solide qu'en ce moment.
Avec d'abord cette déclaration de Benjamin Netanyahou.
Le président est un remarquable leader pour la planète. Il améliore le monde pour le bien de nous tous. Il est le meilleur meilleur ami qu'Israël n'a jamais eu à la Maison-Blanche.
Et puis Marco Rubio a pris la parole et il a rappelé le soutien sans concession à Israël et à sa stratégie à Gaza.
Chacun des otages, mort ou vivant, doit être libéré immédiatement. Le Hamas ne peut plus continuer à exister en tant que groupe armé qui menace la paix et la sécurité. Pas seulement d'Israël, mais du monde. Le peuple de Gaza mérite un futur meilleur et ça ne peut pas commencer avant que le Hamas ne soit éliminé, avant que les otages rentrent à la maison.
Marco Rubio a aussi évoqué les pressions sur l'Iran, les démarches de la France, notamment pour reconnaître un État palestinien. Elles ont, selon lui, enhardi le Hamas, une critique claire de l'initiative d'Emmanuel Macron dans la droite lignée des discours israéliens.
Marco Rubio, on l'a appris dans l'après-midi, va se rendre au Qatar, où se tient un sommet d'urgence organisé par les pays arabes en réponse à l'attaque menée la semaine dernière par Israël contre des dirigeants du Hamas installés à Doha. Parmi les premières déclarations, celle de l'émir du Qatar, qui cible Benjamin Netanyahou, suivi Marie-Pierre Véraud.
Il accuse le premier ministre israélien d'avoir délibérément fait capoter le processus de paix. Israël, dont les frappes sans précédent contre un allié des États-Unis, ont semé un vent de panique et de colère dans la région. Tous sont là, notamment le prince héritier saoudien, et resserrent les rangs autour de l'émir du Qatar. Un sommet exceptionnel dont l'Iran souhaiterait qu'il aboutisse à des décisions exceptionnelles. Son président appelle les Émirats Arabes Unis et Bahreïn, engagés dans les accords d'Abraham, à rompre avec l'État hébreu. Nous n'en sommes pas là. L'émir du Qatar met lui en garde devant le risque que la région ne devienne une zone d'influence israélienne. Le texte final devrait dénoncer l'attaque israélienne en des termes vifs, pointant notamment le crime de génocide. Mais les condamnations seules ne stopperont pas les missiles, déclare le premier ministre malaisien. Des mesures punitives, ajoute-t-il, doivent être mises en place. Le Pakistan appelle, lui, à une feuille de route claire en matière de défense collective. Mais les pays arabes et musulmans ne partagent pas forcément le même agenda.
Les armes à sous-munitions ont fait plus de 1200 morts et blessés civils en Ukraine depuis le début de l'invasion russe en février 2022, annonce aujourd'hui de l'Observatoire des armes à sous-munitions qui affirme dans son rapport annuel que les militaires russes y ont eu recours de manière intensive dès le premier jour de la guerre. Les soutiens de l'ex-vice-président Riek Machar, inculpé jeudi pour crimes contre l'humanité, appellent aujourd'hui à la mobilisation militaire en vue d'un changement de régime au Soudan du Sud. Nouvelle menace pour la paix dans ce pays près de 7 ans après la fin d'une guerre sanglante entre ses partisans et ceux du président Salva Kiir qui avait fait quelque 400 000 morts entre 2013 et 2018. Ce lundi 15 septembre est férié au Japon. Il s'agit du jour du respect des personnes âgées. À cette occasion, le gouvernement annonce les nouvelles statistiques concernant les plus de 65 ans. Si leur nombre total est en baisse à cause des décès, leur proportion dans la population n'a jamais été aussi élevée, 29,4% du fait de la dénatalité. Mais le plus étonnant, c'est surtout la proportion des personnes âgées qui continuent de travailler. C'est une correspondance de Tokyo de Karine Ishimura.
Le Japon, 123 millions d'habitants, compte 36 millions de plus de 65 ans, dont plus de la moitié ont en réalité plus de 75 ans. À l'inverse, les moins de 15 ans, eux, ne représentent plus que 10% de la population, une proportion qui ne cesse de baisser et n'annonce rien de bon pour les décennies à venir. Les répercussions de cette situation déséquilibrée sont déjà très visibles, avec une pénurie de main-d'œuvre. Et pourtant, celles et ceux qui sont encore en forme après 65 ans ne rechignent pas à repousser toujours plus loin l'âge de la retraite. Près de 55% des personnes de 65-69 ans travaillent, plus de 35% des 70-74 ans et encore 12% des plus de 75 ans. Cela s'explique par le choix donné aux salariés de poursuivre une activité avec des horaires aménagés, même lorsqu'ils ont en théorie droit à la retraite. La possibilité de cumuler un travail à temps partiel et une pension de retraite est très incitative. D'autant que beaucoup sont par nature enclins à travailler car cela constitue une aide financière et parce qu'ils ont peur du désœuvrement ou considèrent le travail comme un moyen de rester actif en forme et comme une contribution utile à la société. Mais le système a ses limites car les postes dans les secteurs les plus en demande, comme le BTP, l'agriculture, le transport ou les soins aux personnes, sont trop pénibles pour les plus de 65 ans.
Quelques mots de la météo de demain, mardi 16 septembre. Pour refermer cette édition, les régions méditerranéennes profitent d'une nouvelle journée ensoleillée, un peu plus de vent qu'aujourd'hui. Sur le reste du pays, la journée débute sous un ciel variablement nuageux, plus encombré près des massifs avec un peu de pluie, notamment sur le piémont pyrénéen. Quelques ondées faibles circulent également de la Normandie au Nord-Pas-de-Calais. Ce journal a été préparé avec Jean-François Braun, à la technique Marie-Claire Oumabadi.